Bonjour. On est tellement contre les dates obligatoires, les anniversaires rituels, les liturgies plaquées sur tout le monde que on en oublie quand même parfois les symboles aussi qui sont importants. Comme l'a rappelé Simon, la date en effet ne correspond à rien, pas plus que Noël, mais quand même c'est des signes de ralliement, des moments un peu forts qui n'ont pas plus de valeur que les autres, mais qui permettent à un moment ou l'autre de réfléchir, de se réunir peut-être de façon un peu plus solennelle. Ce n'est pas le cas, et je ne porte pas de jugement sur ça, mais je vais quand même vous parler aujourd'hui de cette résurrection. Je m'en serais voulu, en tant qu'ancien catholique, de quand même de passer à travers le fait qu'aujourd'hui c'était le dimanche de Pâques. Et vous savez que depuis quelque temps nous parlons des personnages de la Bible qui nous paraissent importants, qui sont un peu oubliés, qui méritent d'être mis en valeur. Donc aujourd'hui je vais parler des personnages les plus importants de la Bible. C'est nous. En ce dimanche de Pâques, c'est nous les personnes les plus importantes de la Bible, parce que depuis le début, tout le plan de Dieu, tout ce qui a été mis en place, amène à cette résurrection de Jésus. Et cette résurrection de Jésus, elle n'a qu'un sens, c'est celui de nous donner la vie. Donc si nous n'existions pas, si nous n'étions pas là, si nous n'étions pas ces créatures, tout ça n'existerait pas, n'aurait pas de sens. Donc aujourd'hui, nous sommes les personnages les plus importants, et c'est de nous-mêmes dont nous allons parler. Car il ne faut pas oublier que, encore une fois, tout ce qui a été fait, c'est pour nous. J'allais même dire à cause de nous. Chez nos amis orthodoxes, il y a une tradition que je trouve très jolie. Le jour de Pâques, les fidèles se réunissent dans leur église et ils s'embrassent les uns les autres en disant « Christ est ressuscité ». Oui, Christ est ressuscité. J'aimerais que ce soit notre leitmotiv durant cette prédication, parce que ça doit l'être dans notre vie de tous les jours. Je vous rappelle que Paul a dit « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide, et vide est notre foi. » C'est le jour, aujourd'hui, symbolique, où notre foi tient son rocher, son ancre, sa raison d'être. Si nous sommes une vingtaine à être ici, c'est parce que Christ est ressuscité. Et parce que nous le croyons, parce que nous savons que c'est vrai. Là, je venais de Nice, je me la voix un peu cassée à cause du match de foot, donc je m'en excuse, mais du coup, j'ai retraversé Nice ce matin tôt. C'était très joli, j'ai traversé la campagne. Pas une seule bannière, pas une procession, pas une cloche qui sonne. Un jour comme les autres, tout le monde se moque que Christ est ressuscité. Mais moi, je m'en moque pas, vous non plus, et je voudrais que nous essayions justement juste de parler de ces trois mots. Christ est ressuscité. Très simplement, hein, j'ai pas de prétention à l'exhaustivité. Christ, c'est-à-dire le Messie en hébreu, loin, l'apostrophe ONT, celui que Dieu a choisi. Jésus né d'une vierge, parfaitement homme comme nous. Ce qui veut dire que s'il y a Christ, c'est que Dieu existe. Si Dieu existe, c'est que nous ne sommes pas là par hasard. Nous avons un sens, une raison d'être. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas perdus dans cet univers dont on ne connaît ni le début ni la fin. Le fait de dire Christ, c'est reconnaître que il y a une force supérieure qui dirige toutes choses et qui donne du sens et du sel à nos existences. On pourrait dire évidemment sur Christ mille autres choses, mais je me contente de ça. Ensuite, Christ est ce verbe être. C'est un présent, parce qu'il est ressuscité quand même il y a 2000 ans, hein, à peu près. Mais c'est Christ est ressuscité aujourd'hui aussi. C'est un présent qui envahit tout. Autant le passé que l'avenir, que ces moments que nous vivons là. C'est cette fameuse parole où Jésus dit « Je suis celui qui est ». C'est-à-dire, tous les traducteurs de la Bible, de l'Ancien Testament, quand Yahvé parle, etc., c'est très compliqué parce que c'est un temps qui est un présent, qui en même temps englobe tout, et on a beaucoup de mal à le traduire, mais moi ce qui m'intéresse dans ce EST, c'est que le temps est aboli. Avec Jésus, le temps n'existe pas. Il est. Nous sommes dans le temps. C'est notre problème. C'est ce temps qui nous maltraite. Ce temps qui nous fait naître, bien sûr, mais c'est aussi celui qui va nous faire vieillir, qui va nous faire mourir. C'est le temps, ce temps-là qui nous donne la notion du manque, de l'absence, ce temps qui accumule les souvenirs, les bons que l'on regrette de ne plus vivre, et les mauvais qui nous empoisonnent la mémoire. C'est ce temps aussi qui est une course perpétuelle contre la montre, cette montre qui nous grignote, et dont les hommes, depuis la nuit des temps, depuis qu'ils peuvent exprimer par l'art ce qu'ils ont au fond de leur cœur, en fait, ils parlent toujours du temps. Les plus belles histoires, les plus belles peintures, les plus belles chansons sont toujours tournées autour de l'amour que l'on a pour quelqu'un d'autre, amour homme-femme, avec ses enfants, avec des amis, avec la nature qui nous entoure. Mais c'est toujours cet amour est d'autant plus beau qu'on sait qu'il va s'arrêter. Je voudrais vous relire, si vous me permettez, de pas dire de la Bible, mais de lire un extrait du lac de Lamartine. Tout le monde a dû lire ça dans sa jeunesse. Sont trop tôt au collège, ce qui nous en dégoûte, ce qui est bien triste, parce que ce sont des mots magnifiques. Alors, voilà, le lac Lamartine, hein, Alphonse, 1790-1869. Donc on peut penser qu'il y a longtemps, certes, mais écoutez. Alors j'ai pris qu'un extrait, parce que le poème est très très, très long et très beau, qui commence par une phrase que tout le monde connaît. Voilà ce qui me paraît être un bon résumé de ce temps qui nous dévore. Ô temps, suspend ton vol. Et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Assez de malheureux ici-bas nous implorent, coulez pour eux. Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent, oubliez-les heureux. Et je demande en vain quelques moments encore, le temps m'échappe et fuit. Et je dis à cette nuit, sois plus lente, et l'aurore dissipera la nuit. Aimons donc, de l'heure fugitive, hâtons-nous, jouissons. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive, il coule et nous passons. Temps jaloux, se peut-il que ces moments d'ivresse où l'amour à long flot nous verse le bonheur s'envolent loin de nous de la même vitesse que les jours du malheur? Et quoi, n'en pourrons-nous fixer au moins la trace? Quoi, passé pour jamais? Quoi, tout entier perdu? Ce temps qui les donne, ce temps qui les efface, ne nous rendra plus. Éternité, néant, sombres abîmes, que faites-vous des jours que vous engloutissez? Parlez-nous. Rendrez-vous ces extases sublimes que vous nous ravissez? Et c'est vrai, ça rencontre un écho au fond de nous, forcément. Et si c'était écrit en 1800 et quelques, on pourrait l'écrire aujourd'hui. Il y a quelques années, c'est Léo Ferré, avec le temps va, tout s'en va. Et en remontant dans le temps, on revient toujours, si vous lisez François Villon, enfin, tous les poètes ne parlent que de cela, de ce temps qui n'est pas dans le « est », EST dont je parlais tout à l'heure. Car cette prière si humaine, c'est une prière que nous venons de lire, elle a sa réponse. Christ abolit le temps. Et il abolit le temps. Comment? En ressuscitant. Car, donc c'est notre troisième mot dont je veux parler, ressusciter. Ça veut dire, évidemment, revenir de la mort à la vie. Mais attention, c'est pas la résurrection de Lazare. C'est pas celle de la fille de Jaïrus. Ce sont pas juste des prolongations comme au football. C'est pas du rap comme à la cantine. C'est pas un extra-ball comme au flipper. Car la mort est revenue les chercher, cela. Non, non, Jésus ressuscité, c'est la mort qui n'existe plus. Il est dit dans les actes, la mort, Jésus, quand il a terminé ce qu'il avait fait avec ses disciples, a été enlevé. Il n'est pas retombé dans le trou. Non, non, il a été enlevé. La mort, là, vraiment, n'existe plus. Et souvenez-vous, dans 1 Corinthiens, mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Ou dans chez le prophète Osée, je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? séjour des morts, où est ta destruction? Christ est ressuscité, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que cette mort-là, qui passe ce temps qui nous dévore, qui nous fait tant de bien, mais qui nous fait tant de mal à l'arrivée, ça n'existe plus. Christ est ressuscité, ça veut dire le temps que nous vivons n'est plus le temps qui importe. Christ est ressuscité, c'est une révolution absolue. C'est une bombe atomique qui abolit toutes nos lois terrestres, toutes nos lois universelles. Copernic, Galilée, Einstein, etc. Évidemment qu'ils ont raison dans notre petit espace. Mais aujourd'hui, avec Jésus, ce n'est plus d'actualité. Nous sommes dans un monde dont on dit qu'il a classiquement quatre dimensions. Vous savez, puisqu'un événement se définit par la position dans l'espace, donc X, Y, Z, longueur, largeur, hauteur, ça donne un volume, c'est les trois dimensions, et ce volume existe à un moment T donné, quatrième dimension. Donc l'événement qui est l'existence à un moment d'un volume donné, c'est les quatre dimensions. Or, Christ est ressuscité, annule cette vision et doit bouleverser et bouleverse notre façon d'appréhender le monde, notre existence, nos rapports avec les autres. Parce que Christ est ressuscité, c'est la cinquième dimension. Et cette cinquième dimension, c'est celle de l'amour. Alors, pas notre amour handicapé, hein, pas notre amour atrophié, pas notre amour donnant-donnant. Je t'aime, j'espère qu'en retour, ça va fonctionner. Tu vas me donner quelque chose. Je t'aime et... vu tout ce que j'ai fait pour toi, tu vas faire un effort pour qu'il y ait une réponse. Non, non, c'est l'amour de Dieu immense, sans limite, et qui nous ramène au début de cette phrase, l'amour qui a envoyé Christ, son propre fils, loin, le Messie, pour être crucifié, pour être ressuscité, parce que nous, les personnes les plus importantes de la Bible, nous avons droit, de façon absolument extraordinaire, à cette deuxième chance-là, puisque nous avons raté la première. Cette mort-là, elle est vaincue définitivement et elle est vaincue au nom de cet amour qui est cette cinquième dimension qui va donner à nos quatre dimensions terrestres dans lesquelles nous évoluons avec ce temps qui est le nôtre, soudain une façon d'être, de vivre, qui change tout. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film de 1997, je parle au plus jeune, non, au plus ancien, un film de Matt Damon, vous savez, cet acteur qui avait été connu de son premier film qui s'appelait Will Hunting. Vous vous souvenez, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a été abandonné par ses parents, frappé, enfin qui a une jeunesse épouvantable, qui est d'une intelligence extraordinaire. Mais tout ce qu'il a souffert dans sa jeunesse l'a fait se rebeller, il est contre tout, il est violent, il est brutal, il est solitaire, et il travaille comme balayeur dans la grande université, je sais plus laquelle c'est, Cambridge, quelque chose comme ça. Et tout le monde le prend pour un sous-fifre, en plus ils ont une tête de bulldog. Et la nuit, il rentre dans les amphithéâtres, il y a les grandes équations scientifiques qui sont écrites pour les étudiants. Et lui, quatre coups de cuillère à peau, ting 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 ting, entre deux coups de serpillière, il résout ses équations. Les professeurs s'en rendent compte, le découvrent. Mais lui, c'est une grosse frappe, il y a une petite frappe plutôt, il n'en a rien à faire de ça, parce qu'il veut pas être pris dans cet establishment qui, en fait, l'a complètement, lui pense qu'il l'a détruit quand il était petit, que les hommes sont pas à la hauteur, de son intelligence. Et finalement, après l'histoire, il est mis en prison, il échappe à la prison en échange d'un stage dans cette université auprès du professeur qui est ébahi par son intelligence. Mais par contre, il faut qu'il ait en échange de cette liberté conditionnelle, il faut qu'il ait un suivi psychologique, avec un psychiatre qui doit essayer de le remettre dans les rails. Donc, il accepte juste pour être sorti de prison. Il continue à faire sa forte tête, on lui met dans les pattes les plus grands psychiatres, les plus grands psychologues, qui renvoient avec facilité, parce qu'il est trois fois plus intelligent qu'eux, et les gars refusent de travailler avec ce jeune qui est complètement ingérable. Puis finalement, il y en a un qui arrive, qui est joué par Robin Williams, et qui, lui, ne va pas rentrer dans les méthodes « je sais », tout ça. Non, il va l'écouter, il va naître entre ces deux personnes une très très belle amitié qui va évidemment sauver ce jeune garçon, mais en même temps qui va sauver le psychiatre, puisque les deux vont échanger leurs blessures d'enfance pour en faire... Enfin, lui, c'est pas une question d'enfant, c'est que sa femme est morte tôt, et il s'en est jamais remis. Et il y a une très très belle scène où Will Hunting, Matt Damon, au bout de séance et séance, il est en train de confiance, crache tout le mal qu'il a reçu, et tout le mal qu'il a fait aussi. Et, excusez-moi, et à chaque fois, Robin Williams, au lieu de répondre, non, ça c'est ton père qui a fait ça, non, toi tu as fait ça, il dit simplement, c'est pas de ta faute. Il lui dit, c'est pas de ta faute. Et au fur et à mesure, il le prend dans ses bras, et lui dit, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Et à la fin, le gars craque. Et enfin, il a pu laisser sortir tout ce qui lui faisait mal. Et c'est une très très belle scène. Et, merci. Et cette scène, elle m'a beaucoup marqué, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas de notre faute. Beaucoup de peur qu'on a, beaucoup de maladresse qu'on fait, beaucoup de choses mal qu'on fait, beaucoup de choses mal qu'on nous fait, c'est pas de notre faute. Mais on peut faire quelque chose pour que ça change. Et Christ est ressuscité, c'est ça qui fait que c'est pas de notre faute et qu'on peut s'en sortir. Alors, je voudrais juste, à la manière de la scène de ce film dont je viens de parler, tout simplement dire des choses qui nous arrivent, tout bêtement, ça va être très bas de gamme, mais j'aimerais qu'on en prenne conscience, que c'est ça que ça veut dire aujourd'hui, Christ est ressuscité. Et on va le faire à la manière des orthodoxes, je vais le faire. Donc, tu es fatigué, Christ est ressuscité. Tu es malade, Christ est ressuscité. Tu es déçu, Christ est ressuscité. Tu es désespéré, Christ est ressuscité. Tu es angoissé, Christ est ressuscité. T'es en colère, Christ est ressuscité. Tu es blessé, Christ est ressuscité. Tu es frustré, Christ est ressuscité. Tu es abandonné, Christ est ressuscité. T'es jaloux, Christ est ressuscité. Tu es épuisé, Christ est ressuscité. Tu es maltraité, Christ est ressuscité. Tu es inquiet, Christ est ressuscité. Tu es condamné, Christ est ressuscité. Tu es rejeté, Christ est ressuscité. Tu es agressé, Christ est ressuscité. Ça marche dans les deux sens. Tu es aimé, Christ est ressuscité. Tu es comblé, Christ est ressuscité. Tu es apaisé, Christ est ressuscité. Tu es plein de projets, Christ est ressuscité. Tu es confiant, Christ est ressuscité. Tu es souriant, Christ est ressuscité. Tu es amoureux, Christ est ressuscité. Tu es choyé, Christ est ressuscité. Tu es heureux, Christ est ressuscité. Je dis pas que plus rien n'est important ni réel dans tous ces sentiments. Je dis qu'ils ne sont pas le centre de notre vie. Ils ne sont plus que le centre de notre vie. Qu'il y a l'amour de Dieu tout autour qui donne un autre sens à tous ces sentiments. Tout le mal qu'on reçoit, tout le mal qu'on donne, mais aussi tout le bien qu'on vit. Parce que la cinquième dimension, elle donne une autre valeur, une valeur cachée à ce qu'on ne voit pas forcément. Cette semaine, j'étais à Paris avec ma fille, je l'ai amenée au planétarium du Palais de la Découverte. Je ne sais pas si vous avez déjà été au Palais de la Découverte, vous connaissez, hein, dans le petit palais. Le planétarium, ça existe depuis très longtemps, on est dans une salle, assis avec des fauteuils en arrière, on a une immense voûte. Et pendant une heure, il y a toutes les étoiles avec une machine incroyable. Ils nous montrent comment marche le ciel, les étoiles, le soleil. Enfin, c'est tout à fait extraordinaire. Il y avait un moment qui était très très étonnant, parce que c'est, il nous a montré la personne qui s'occupe de ça, il nous a montré tout ce qu'on voit pas quand le soleil est là, parce que la lune et les étoiles, on les voit la nuit. Donc là, vous voyez les étoiles qui bougent. Non, en fait, c'est nous qui bougeons, hein, vous avez compris. Et puis, à un moment, il dit, maintenant, il y a le soleil qui se lève, et au fur et à mesure que le soleil se lève, il refait la lumière dans la salle, et on voit plus que le soleil. Il dit, ben, c'est quand même bête, parce qu'en fait, pendant que le soleil est là, le système solaire, toutes les étoiles, elles continuent de vivre, d'avoir quelque chose. Et donc, il a remis l'obscurité, il a laissé le soleil juste le point, et on a continué à voir la marche des étoiles, et comment tout ça évolue. Et bien, c'est absolument ce qui se passe. Christ est ressuscité, ça permet de que notre petit soleil, on a l'impression que du coup il éclaire tout et que et qu'il n'y a plus rien autour, c'est pas vrai. Autour, continue à avoir une vie qui fonctionne, et c'est toutes les étoiles qui tournent, tous les astres, et c'est ça qui se passe dans nos vies quand on a conscience de que Christ est ressuscité, c'est que tous les sentiments dont je viens de parler, ils sont pas simplement dans notre petite boule à nous, et puis tout autour, il n'y a rien et on ne peut voir que ça qui nous fait du mal, qui nous fait du bien, non? Oui, il y a ça. Ces sentiments-là, ils existent, notre vie, elle existe, tant qu'on passe sur Terre, personne ne peut le nier, il est réel. Mais il y a tout ce qu'il y a autour qui continue d'exister et de tourner pour que notre vie, elle tourne aussi. Et c'est ça, être chrétien. C'est ça, dire Christ est ressuscité, c'est se dire que tout ce qu'on est, ça reprend du sens parce que soudain, on voit tout ce qu'il y a autour que d'habitude, on ne voit plus. Ou qu'on n'a jamais vu. Alors, j'avais dit que c'était nous le personnage le plus important aujourd'hui. C'est vrai, mais j'aimerais quand même qu'on parle de deux personnages qui sont dans les textes qu'a pu lire ou qui étaient autour des textes qu'a lu Simon sur les textes de la résurrection. Vous aurez noté que il y a quatre évangiles. Quatre évangiles, pour moi, ça fait quatre dimensions. On s'est toujours demandé pourquoi il y en avait quatre. Yann en a déjà parlé il y a quinze jours, c'est que chacun donne un aspect différent de la même du même événement. Et donc, non, je ne vais pas relire les évangiles de la résurrection, je vais en relire qu'un. Mais si on relit Marc, Luc, Jean, c'est des chapitres assez courts, c'est toujours le dernier chapitre. C'est toujours le même schéma pour les femmes qui viennent voir Jésus, enfin qui viennent au tombeau, pour les disciples qui ne les croient pas. On passe toujours d'abord à de l'abattement, Jésus est mort, du chagrin, voire de l'oubli, la parole de Jésus qui est oubliée, pourtant il avait dit qu'il reviendrait. Puis il y a une apparition, il y a quelque chose, il y a tout de suite de la peur, de la panique, de l'épouvante, c'est ces mots qui sont employés. Puis il y a un doute, comme on a pu le voir aussi, un doute sur la révélation de Jésus vivant, voire de l'incrédulité, et puis on passe finalement à la joie, et enfin à l'adoration. Si vous lisez Marc, Luc, Jean, c'est exactement le même schéma à chaque fois, vu sous des dimensions différentes. Le même schéma pour tous, presque pour tous, sauf pour deux personnages, et qui vont faire le lien avec ma cinquième dimension. C'est dans Matthieu, et là je vais prendre le temps de lire. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché, et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau, avec crainte et une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne, « Dites que ses disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. » Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues. Et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Cet épisode-là, il n'est que dans l'évangile de Matthieu. Il y a une dimension, je vous dis, chacun apporte sa pierre. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est les gardes. Parce que les gardes, ils ont vu le miracle. Peut-être Ils l'ont vu aux premières loges. C'est les seuls qui pourraient témoigner exactement de ce qui s'est passé. Premier temps, ils sont comme les autres, comme les femmes dans les autres évangiles, on dit qu'elles étaient épouvantées, apeurées. Donc eux, il est dit qu'ils ont une telle peur qu'ils sont comme morts. On pourrait l'être à moins, je pense. Mais le problème, c'est la deuxième partie de leur réaction. Donc là, ils vont donc voir leur responsable, et comme il est dit, ils expliquent exactement ce qui s'est passé. Donc ils ne mentent pas, ils annoncent l'événement. En quelque sorte, ils disent « Christ est ressuscité ». Et là, on leur demande de se taire en échange d'une forte somme d'argent et d'une forme de... quand on est monsieur là... d'immunité, merci. Bravo. Je suis pas évident. D'une immunité face à la faute qui était de dormir pendant... ou au moins d'avoir raté cette garde-là, puisque le corps était parti. Et ils acceptent cette somme d'argent, et leur histoire à eux se termine là. Ce qui s'est passé là, c'est que eux, ces soldats-là, ils sont restés dans la quatrième dimension. Ils n'ont pas accédé à la cinquième. Et la cinquième, c'est quoi? C'est, évidemment, l'amour. Mais l'amour, c'est la conséquence. La cinquième dimension dans cet épisode-là, c'est le mouvement. Car si nous prenons la fin des quatre évangiles qui parlent de la résurrection, à chaque fois, et je vais en lire que un ou deux, voilà ce qui se passe une fois que Jésus s'est révélé à ses disciples, à ses proches, qu'ils l'ont reconnu. Il n'y a pas de grande fête, enfin, c'est pas ce qui est important. À chaque fois, il est marqué la chose suivante. Je vais commencer par Marc. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Si vous allez dans Luc, il va être marqué, il leur dit, ainsi il est écrit, fallait que cela arrive, et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Dans Jean, il y a aussi, allez, je vous donne quelque chose, allez, vous allez donner cette bonne nouvelle partout. C'est ça. La cinquième dimension qui est inscrite dans ces textes, c'est vous avez reçu quelque chose, maintenant allez le transmettre. Donnez du mouvement au trésor que vous avez. À cette résurrection dont vous êtes les témoins, vous avez la chance d'être les témoins visuels, allez la faire bouger, allez la transmettre, allez la donner. C'est le partage de la bonne nouvelle. Les deux soldats, les quelques soldats dont on parle, eux, ils ont arrêté la bonne nouvelle alors qu'ils l'avaient reçue. Ça s'est terminé. Et cette cinquième dimension qui est le mouvement, c'est quel mouvement? Et là, on retombe sur mes pieds. C'est le mouvement, évidemment, de l'amour. Parce que la bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle d'amour. Et c'est ça que veut dire Pâques. C'est simplement ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je dis que ça serait court, je vais m'arrêter là. C'est Christ est ressuscité. C'est l'entrée dans notre vie de quelque chose qui casse complètement notre univers auto-centré, notre univers terrestre, notre univers mortel, notre temps limité. Christ est ressuscité, c'est nous avons basculé dans quelque chose d'autre qui est extraordinaire, qui est d'une autre dimension et qui doit bouleverser nos vies, même si nos vies restent ce qu'elles sont, parce qu'on ne peut pas changer les quatre premières dimensions. Mais la cinquième, grâce à lui, on peut y goûter totalement. Alors j'aimerais, si vous le voulez bien, que pour terminer, on se lève, ou sans se lever, on se retourne vers son voisin, on va dans l'église et on se dit « Christ est ressuscité ».